Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Actualité politique chargée aux États-Unis cette semaine et même dès ce soir avec le dernier débat démocrate avant la première primaire, les caucus de l'Iowa. Le 3 février, les 6 candidats qui seront sur le plateau auront à cœur de se distinguer dans une course encore indécise et ils auront en tête ce qui se passe dans le camp d'en face. Le procès de Donald Trump devant le Sénat dans le cadre de la procédure de destitution est désormais imminent et le président ne refuse pas, c'est le moins qu'on puisse dire, de polariser la vie politique de son pays. Tout cela est donc déjà très intense, mais les différentes issues sont encore incertaines. Que réserve l'année électorale américaine qui commence? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Laurence Nardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme États-Unis de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et auteur du podcast, vous animez le podcast Trump 2020, c'est sur le site de l'IFRI et des sites spécialisés en podcast. Et Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 2 Assas, spécialiste de la politique et de la société américaine, auteur du livre « Et s'il gagnait encore » aux éditions VA Press, et Joe Biden, le troisième mandat de Barack Obama, également aux éditions VA Press. Commençons par le débat de ce soir, si vous le voulez bien. Débat entre 6 candidats démocrates. Ça se passe à Des Moines, capitale de l'Iowa, où va se dérouler la première primaire sous forme de caucus. Ce sont des assemblées. Peut-être qu'on pourra revenir un petit peu sur ce système dans moins de 3 semaines maintenant. Et il y a eu un certain nombre d'abandons dans la course à l'investiture ces derniers jours. Est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair, Laurence Nardon?
Oui, il me semble qu'on commence à y voir un peu plus clair. Il y a 6 candidats qui ont été jugés assez riches et assez hauts dans les sondages pour participer au débat de ce soir, mais il y en a 6 autres qui participent pas, qui sont encore dans la course, ils sont encore 12 en d'autres mots. On commence à y voir plus clair parce que caracole en tête, en tout cas devant les autres, Joe Biden, qui ne s'est toujours pas écroulé malgré toutes les prédictions qu'on pouvait faire à ce sujet il y a 6 mois, et que derrière lui, le talonnant plus ou moins suivant les États, il y a Bernie Sanders, donc Biden un modéré et Sanders un plus à gauche, plus radical, avec l'étonnante chute dans les sondages depuis novembre-décembre, je dirais, d'Elizabeth Warren, qui était l'autre radicale. Un peu moins radical que Sanders, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et du coup, on a l'impression que la course se restreint à ce duo de tête.
Jean-Éric Brana, les trois candidats que vient de citer Laurence Nardon, ils ont un point commun, ils sont blancs, ils ont plus de 70 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de manque de diversité?
Ah, il y a un vrai problème avec l'âge, effectivement, mais la question de l'âge, étonnamment, n'est pas posée dans cette campagne. Elle a été posée par quelques journalistes à certains moments et elle est retombée très rapidement. Et souvenez-vous, elle a même été posée dans un débat, le deuxième débat en réalité au mois de juin, par un candidat qui a été accusé de faire de l'âgisme, c'est-à-dire de s'en prendre aux personnes âgées par Bernie Sanders, qui est le doyen de cette course, qui a expliqué que c'était pas très correct et depuis plus personne n'a pipé mot, on ne parle plus, vous avez raison d'insister sur cette question. Bernie Sanders aura 79 ans au jour de l'élection, Joe Biden 78 et Elizabeth Warren 71. Ça fait quand même effectivement très âgé. Rajoutez Bloomberg qui est également à 78. Vous avez une moyenne de 76 ans et demi pour ces quatre-là. C'est-à-dire, si on les additionne en âge, moi je me suis amusé à le faire dans mon livre, ça fait 340 ans, donc l'équivalent d'une classe de terminale aux États-Unis qui vont être en droit de vote cette année pour la première fois et qui auront face à eux des candidats effectivement très très âgés, très loin de leurs préoccupations.
Laurence Nardon.
Sans compter Trump, je ne sais pas si vous l'avez
cité. 74 ans, c'est sûr.
74 ans, donc on a... finalement, c'est peut-être un peu normal que la question de l'âge ne se pose pas, puisque tous les camps et tous les courants, même au sein du camp démocrate, ont un candidat très âgé, donc ils ne vont pas s'attaquer les uns les autres sur ce plan-là.
Alors, est-ce qu'il y a un favori qui se dégage dans cette primaire démocrate? Est-ce que, on le disait, Joe Biden, on prédisait qu'il allait courber les chines, mais il a le cuir manifestement épais. Les autres sont quand même assez proches, Jean-Éric Brana.
Écoutez, moi j'ai effectivement parié sur Joe Biden très rapidement, puisque j'écrivais sur lui au mois de mars, au moment où on expliquait qu'il ne pourrait même pas rentrer en campagne, puisqu'il y avait des attaques très fortes contre lui. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que dans mon analyse, il fallait qu'il y ait face à Donald Trump quelqu'un capable de le battre, et pour le battre, il fallait quelqu'un qui lui ferme le centre. Puisqu'en réalité, la seule opportunité qu'avait Donald Trump de se faire réélire, c'est de pouvoir évoluer sur le centre, vu qu'il a travaillé pendant 3 ans à la consolidation de sa base et qu'il a formidablement bien réussi, puisqu'il termine ce mandat avec 44,5 de bonnes opinions, fluctuant de 42 à 45. Mais en réalité, c'est d'une stabilité à toute épreuve. Donc maintenant, il faut qu'il se tourne vers le centre. Or maintenant, le centre lui est fermé puisque Biden l'occupe. Il est le plus républicain compatible des candidats. C'est d'ailleurs pour ça que parmi les plus progressistes, certains l'attaquent déjà très fortement en expliquant que, comme l'a fait AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, qui pourrait même être de notre parti que le sien.
Laurence Nardon, il y a un nom que vous n'avez pas cité parmi ceux dont on parle quand même en ce moment et qui seront présents au débat ce soir, c'est Pete Buttigieg. Est-ce qu'il fait, il ne compte pas parmi les favoris? Il est plus ou moins en tête dans l'Iowa, en tout cas.
Alors ça, c'est intéressant parce que, alors, Pete Buttigieg, qui est ce jeune gendre idéal, gay, mais qui est une sorte de version de Biden en plus jeune, parce qu'il est blanc, mais il est aussi très modéré, dans le contexte du Parti démocrate aujourd'hui. Et effectivement, il a fait la course en tête dans les sondages de l'Iowa pendant quelques mois avant Noël, enfin en fin d'année 2019. Il dépassait de pas mal de points Biden, et donc on a pu penser que il pourrait remporter le caucus de l'Iowa, donc celui qui a lieu le 3 février et qui commence
le processus des primaires.
Et donc sachant que si vous gagnez la première primaire, ça crée une dynamique pour les suivantes. Et donc, le fait qu'il soit en tête dans l'Iowa laissait à ses partisans beaucoup d'espoir. Et puis, il est retombé. Il est aujourd'hui à nouveau derrière Biden. Donc, c'était peut-être un moment fugace comme ça dans la campagne.
Jean-Éric Brana, pour se distinguer parmi tous ces candidats, est-ce qu'il faut nécessairement, j'emploie un mot qui est discutable et vous aurez peut-être l'occasion d'en discuter, est-ce qu'il faut nécessairement se radicaliser à gauche?
Non, pas du tout. Il faut avoir une proposition originale. Alors Bernie Sanders, là-dessus, c'est le plus original des originaux, puisqu'il a créé la révolution dans le parti en 2016, en apportant, lui, l'idée notamment d'une révolution non seulement sociétale, mais également environnementale. Il était en avance sur les idées de son parti, et donc il capitalise aujourd'hui sur sa très bonne campagne de 2016. Elizabeth Warren, à mon avis, a laissé passer le train en 2016. Elle devait y aller, si on se souvient, en décembre, et puis finalement, elle avait laissé passer Hillary Clinton. Grosse erreur, parce qu'elle était très haut, là, pour les bookmakers, cette année-là. Et effectivement, elle aurait pu être la première femme présidente des États-Unis. Buttigieg, c'est intéressant. Pour moi, il est pas terminé. Hein. Il est quand même vraiment pas loin. Et puis c'est un caucus, donc le caucus, vous savez, c'est une règle très particulière. On va peut-être en parler un petit peu après. Mais donc il peut y avoir une vraie surprise avec lui en Iowa et dans Nevada, qui est également un caucus. En New Hampshire, j'y crois déjà un petit peu moins. Mais on voit que l'offre peut rapidement vous mener vers le haut. Regardez Steyer, qui se trouve ce soir sur scène à la surprise de la plupart des observateurs, il faut le dire, mais qui nous a sorti ces derniers temps des propositions qui intéressent notamment les jeunes. Je pense notamment à sa proposition sur les études gratuites pendant 2 ans, ou la renégociation de tous les prêts en cours sur des taux très bas.
Des prêts étudiants,
c'est ça. Ouais. Et c'est effectivement une proposition qui attire les jeunes, et on voit qu'il a eu une montée très rapide là dans les sondages ces derniers temps, qui fait qu'il va être sur le débat ce soir. Donc il ne s'est pas radicalisé. C'est une proposition qu'on a régulièrement au sein du Parti démocrate. Bernie Sanders l'avait porté d'ailleurs la dernière fois. Donc on est là sur un progressisme normal au sein du Parti démocrate, je crois. Et je ne vois vois pas particulièrement de radicaux en réalité dans cette élection.
Laurence Nardon, oui.
Allez-y. Ouais, je voudrais rebondir justement là-dessus parce que au-delà du charisme des uns et des autres et des tactiques entre les différents sondages et l'ordre des primaires des États qui passent dans les primaires, on est dans cette année en 2020, un peu d'ailleurs comme en 2016, dans un renouvellement idéologique extrêmement intéressant au sein du Parti démocrate et même d'ailleurs à droite, on pourrait dire, il y a globalement aux États-Unis un renouvellement idéologique vraiment passionnant, puisque on est en train de sortir des années de domination des idées libérales au sens économique du terme, puisque Sanders dès 2016 se dressait contre le credo de la dérégulation, du moindre rôle de l'État. Warren l'a suivi sur ces idées-là, en étant moins radical, lui se dit socialiste.
Oui, c'est un gros mot aux États-Unis.
Très gros mot. Ça, oui. Alors qu'elle, elle se dit capitaliste, elle veut réformer un capitalisme juste comme dans les années 50. Biden reste libéral sur les questions économiques. Tout ceci, ce panache de progressisme sur les questions sociétales, les minorités, etc. Et puis, de l'autre côté, vous avez ce Trump qui a lui aussi un positionnement extrêmement neuf dans la politique américaine moderne, puisqu'il est lui aussi un anti-libéral sur le plan économique.
J'ouvre la parenthèse que vous avez vous-même ouverte, Jean-Éric Brana. C'est quoi un caucus?
Un caucus, pour des Français, on va dire, c'est un groupe militant dans une ville. Ce sont en réalité les encartés qui vont voter. Mais on vote d'une manière particulière. Si on est républicain, on fait ça très traditionnellement. C'est un bulletin secret, on vote en une fois, c'est vite plié. Si on est démocrate, il y a beaucoup de folklore. Et en réalité, on se réunit dans une salle. Alors, c'est généralement une grande salle, hein, la salle du village, ça peut être une église, le gymnase. Et on répond à l'appel d'un candidat en se mettant physiquement à côté de celui qu'il représente dans un coin de la salle. Bon, cette fois-ci, comme ils sont 12, il faut 12 coins, donc c'est compliqué. Alors vous voyez dans la salle, vous répartissez. Ceux qui restent au milieu sont les indécis et ceux qui ont déjà sont pour un candidat vont aller chercher physiquement les indécis pour les amener chez eux. Alors vous voyez, on peut dire tiens, je t'offre une bière et tu viens avec moi. Enfin, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est très local, il y a de la bonne humeur, beaucoup de discussions, mais beaucoup de joie. Seulement à la fin, parce qu'il y a plein de règles, hein, je vais faire rapidement pour vous bien évidemment, mais il y en a une qui est très importante. Si on fait pas 15%, on est éliminé, on n'est pas viable. Alors tous ceux qui font pas 15%, on les remet au milieu et on les redistribue avec d'autres. Vous voyez, c'est là où les bières elles s'accumulent.
C'est un match par élimination.
Mais c'est là où tout est possible, parce que prenons Amy Klobuchar, par exemple, qui ne ferait pas 15%, ses représentants, ceux qui veulent voter pour elle, sont là au milieu et se disent, bon, alors maintenant, je vais voter pour qui? Et donc, leur deuxième choix est très important, parce qu'ils vont aller vers un deuxième choix, mais le deuxième choix est peut-être éliminé. Donc, on va vers un troisième choix, voire un quatrième choix. Et c'est là où on peut avoir des surprises, parce que l'accumulation de ces deuxième, troisième, quatrième choix font qu'à la fin, on a comme ça des gens qui émergent, qu'on n'attendait pas du tout. Et donc, le sondage qu'on avait au départ ne vaut plus rien à l'arrivée, parce que c'est compliqué. Permettez-moi encore un mot, parce que là, je ne suis qu'au premier étage, je n'étais qu'au niveau du quartier. Mais ensuite, il y a un autre étage, quelques jours plus tard, au niveau de la ville, puis au niveau du comté, puis au niveau de la région. Et enfin, au niveau de l'État, ça se déroule sur plusieurs mois. Donc, quand on a le résultat, c'est en réalité pas le 3 février. On aura un faux résultat le 3 février. Mais quelques mois plus tard, on a un résultat qui, généralement, n'a rien à voir avec le premier.
Laurence Nardon, vous avez eu le temps de boire votre bière pendant que Jean-Éric Brana discutait. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, deux choses. C'est que, d'une part, il y a en ce moment des sondages sur l'Iowa qui sortent où on interroge ceux qui comptent participer au caucus sur leur premier choix, mais aussi sur leur deuxième, leur troisième, etc. Donc il y a des sondages très compliqués. Ça, c'était mon point 1. Et mon point 2, c'est que moi, ce que je trouve vraiment absolument passionnant aux États-Unis, c'est ce mélange d'une constitution extrêmement carrée, extrêmement rationnelle, qui vient du siècle des Lumières, où tout est vraiment très bien organisé, et ce système un peu foutraque qui n'est pas rationnel, qui semble venu du fond des âges, hérité de la Grande-Bretagne ou même des îles anglo-normandes, comme pas mal des termes de droit américain. Ce mélange est vraiment pour nous très exotique.
Alors il y a quelqu'un qui n'est pas là ce soir, mais vous avez évoqué son nom, Jean-Éric Brana, c'est le milliardaire Michael Bloomberg. Il a décidé d'enjamber l'Iowa et le New Hampshire pour se concentrer directement
et le Nevada et le Nevada,
oui, pour se se concentrer directement sur le fameux Super Mardi, hein, qui désigne beaucoup de délégués, il y a la Californie notamment. Il fait beaucoup de publicité à la télévision, ce qui fait qu'on le voit moins en dehors des États-Unis. C'est une campagne qu'on voit pas ici en France. Est-ce qu'il pèse lourd? Est-ce que c'est un concurrent sérieux?
Ah bah écoutez, il pèse déjà en publicité au jour où on se parle à 240 millions de dollars. Vous voyez, qui ont déjà été dépensés. Il pèse 1000 personnes, ça date de ce soir, qui ont été embauchées pour servir d'équipe de campagne dans 33 États différents. Il pèse actuellement près d'une cinquantaine de bureaux permanents dans les États qui le représentent, de sièges de campagne. Oui, il pèse très cher, mais il pèse pas en voix. Mmh. Alors, certains sondages le donnent jusqu'à 8. Il est entre 5 et 8. Mais en réalité, ce que ça nous montre, c'est plutôt rassurant, c'est qu'avec une fortune phénoménale, on n'achète pas une élection. Les électeurs ne se font pas prendre à cette hameçon-là. Moi, c'est la morale que j'en tire. Je trouve qu'il y a une belle morale à la fin, quand même, dans cette histoire-là.
Est-ce que c'est un Donald Trump démocrate? Ce qui s'est passé en 2016, la victoire d'un milliardaire, est-ce que ça a donné des idées à d'autres milliardaires américains?
Il y a souvent eu des milliardaires dans la politique américaine. Donc on va voir sur Bloomberg. Moi, effectivement, ce serait un triomphe de l'argent s'il réussissait à engranger plus de points dans les sondages. Moi, je vois deux problèmes sur cette candidature de Bloomberg. Le premier problème, c'est qu'il a été maire de New York de 2001 à 2013, et il y a mis en place pendant toute cette période-là la politique du contrôle au faciès, stop and frisk, pour lutter contre la criminalité dans la ville. Les policiers de la ville avaient eu le droit, sous sa mandature, d'arrêter et de fouiller sans aucun mandat les gens dans la rue. Et
donc c'est une politique... pas très démocrate, ça.
Et puis surtout, ça, oui, ça a été très très racisé
mais
comme
pratique.
Mais il
n'était pas démocrate à l'époque.
Et donc je vois pas comment aujourd'hui, dans le Parti démocrate, il pourrait avancer avec ce bilan-là. Point 1. Et point 2, je ne serais pas surprise par ailleurs, mais ça je ne peux pas citer mes sources, que un certain nombre de casseroles arrivent au grand jour le moment venu sur son comportement avec les femmes dans les années passées.
Vous avez des dossiers, vous connaissez des gens qui ont des dossiers sur Michael Exactement. Bloomberg, Laurence Nardon. Donald Trump, il voit ça comment, cette course à l'investiture démocrate, Jean-Luc Brana?
Ah, je crois qu'il s'amuse beaucoup pour l'instant, puisque la primaire par nature, c'est le moment où les démocrates se tapent dessus les uns les autres. Donc celui qui est en face, forcément, surtout s'il n'a aucune position, ce qui est la position de Donald Trump aujourd'hui, ne peut prendre que du plaisir à regarder cette campagne et à souffler sur les braises. Ce qui fait merveilleusement bien, parce que cet homme-là, c'est avant tout souffler sur les braises. Donc, pour l'instant, il prend beaucoup de plaisir à regarder la campagne. Il a, je crois, déjà établi qui va être le gagnant, puisqu'il en vise plus particulièrement un au milieu de tous les autres, et depuis le départ. Donc, il prépare déjà quand même l'après-primaire, puisqu'il sait que à partir de la convention de Milwaukee cet été, les démocrates vont se réunir autour d'un seul candidat.
Et le même pari que vous.
Et je crois qu'il a fait le même pari que moi. Oui.
Laurence Nardon, la procédure d'impeachment qui lui permet de se victimiser, de mobiliser ses électeurs peut-être à Donald Trump, c'est quelque chose qui finalement le sert?
Je crois bien que oui. C'est-à-dire que, comme on sait que cette procédure qui va reprendre très bientôt avec les débats sur la possible destitution proprement dite du président au Sénat.
Le procès pourrait avoir lieu mardi, nous dit Mitch McConnell ce soir.
Oui, puisque Nancy Pelosi va enfin transmettre les articles de l'impeachment à son homologue du Sénat. Donc les débats vont pouvoir commencer. Comme on sait, il faudrait qu'il y ait 2/3 de sénateurs qui vote la destitution du président pour qu'elle se concrétise. Ça n'a pas de chance d'aboutir puisque le Sénat a aujourd'hui une majorité courte, mais tout de même de sénateurs républicains. Donc c'est un coup dans l'eau, mais je pense que Trump va en faire un maximum pour se montrer comme une victime du système, une victime des élites washingtoniennes coupées des réalités du peuple, et que donc ça va être de l'eau à son moulin.
Et il laboure, hein, les États clés, les swing states. Actuellement, il fait une campagne de terrain, il remplit des salles, c'est le grand spectacle, Jean-Éric Brana.
Ah oui, écoutez, ce soir on a un débat démocrate et lui il est dans le Milwaukee justement, dans le Wisconsin. Donc il attaque effectivement un de ces États clés qui n'avait gagné que de 23 000 voix. Donc il faut absolument, et on va le voir souvent dans cet État, puisqu'il faut absolument qu'il le regagne. Et 2 jours avant, 3 jours avant l'Iowa, pardon, la primaire, il sera lui aussi dans l'Iowa pour un grand meeting. Donc effectivement, il laboure ses états.
Merci Jean-Éric Branat. Merci Laurence Nardon d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.